Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans l'Intégral Foot. On est ensemble jusqu'à 22h. Coach Courbis est toujours là, en direct du Groupama Stadium. Il vous a permis de suivre ce magnifique match entre Lyon et Lorient. Salut coach.
Salut les amis, ça va?
Ravi de te retrouver, évidemment ça va. Kevin Diaz est à mes côtés, salut Kevin.
Salut à tous.
On va donc débriefer dans un instant ce Lyon-Lorient, la victoire lyonnaise 4-1, Lyon qui grimpe provisoirement sur le podium et qui met la pression à Monaco. À 19h25, les infiltrés des RMC, le Nantais Denis Sapia en direct avec nous pour revenir sur Nantes-Bordeaux et la belle victoire nantaise 3-0. Et puis à 19h40, on va lancer la grande soirée de Ligue 2, la présentation de tous les enjeux de cette 37e journée. Donc, 3 qui peut officiellement valider sa montée, qui peut même aller chercher le titre de champion de Ligue 2. Le duel à distance entre Clermont et Toulouse pour l'autre place qui envoie directement en Ligue 1. Ou encore la course au top 5 entre Auxerre, Grenoble et le Paris FC. Tous ces matchs qui seront à suivre à partir de 20h. C'est parti pour l'intégral. Et il y a du direct, évidemment, cet après-midi, avec à commencer par ce match en Angleterre, la 35e journée de Première Ligue. Et allez, l'échauffement de la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea, ça joue depuis 30 minutes. Salut Valentin Jamin.
Presque, Benoît.
Ah, c'est Morgan Maury, mais c'est désolé. Pas grave. Salut Morgan.
On le prend pas mal. Pour ce hors-d'œuvre de la finale de Ligue des Champions du 29 mai à Istanbul, nous sommes à l'Etihad Stadium. La demi-heure de jeu, 0-0 entre les deux formations, entre Manchester City et Chelsea. L'enjeu pour City, ce n'est pas un simple match de championnat. Ça peut être le match du titre en cas de victoire aujourd'hui face aux Blues. Mais pour l'instant, rien de marqué. On a passé la demi-heure de jeu dans cette première période.
Et dis-moi, Valentin, du coup.
Ah, ça te fait rire. Hein.
Morgan, mais du coup, on est d'accord que Manchester City domine quand même.
Oui, Manchester City domine. Et à l'instant, j'ai le ballon qui va au fond des filets, mais il y a une faute qui a été signée à l'instant. Domination de Manchester City. La meilleure action, c'est une tête au-dessus de la cage de Mendy de Nathan Ake. L'expression collective de City est meilleure à celle de Chelsea, qui repose pour l'instant sur quelques individualités. Mais à voir pour la suite de la rencontre. Pour l'instant, 0-0, 31 minutes et 45 secondes.
Merci Valentin. Maury, évidemment. Le rugby, le top 14, c'est la 23e journée qui se poursuit avec un choc entre Montpellier et La Rochelle, deux clubs qui sont finalistes de Coupe d'Europe. Julien Landry, salut Julien.
Salut Benoît, salut Kevin, salut à tous. Ouais, finale de la H-Cup pour les Rochelais qui affronteront Toulouse à Twickenham et les Montpellierains, eux, qui affronteront Leicester à Twickenham également le week-end du 21-22 mai prochain. Et pour moi, ce sont les Montpellierains qui font la course en tête. 22-15, bonus offensif dans la poche des Montpellierains. À noter quand même que les Rochelais ont fait énormément tourner par rapport à la semaine dernière. Aucun des 15 joueurs qui étaient titulaires ne sont sur la pelouse ce soir. Seuls Vian Liebenberg et Raymond Roule étaient sur le banc. Les deux sont entrés, mais ce sont les Montpellierains qui font la course en tête et qui ont donc pour le moment le bonus offensif dans la poche. Mais c'est très serré, 22-15 en faveur du MHR.
Bayonne contre l'UBB. Salut Paul Lafitte.
Salut Benoît, salut Kevin et rebonsoir à toutes et à tous. C'est un petit peu moins serré puisque les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles ont marqué un quatrième essai synonyme de point de bonus offensif. Superbe action initiée encore une fois par l'inévitable, le meilleur 10 français aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire devant Romain Tamac, il s'agit de Mathieu Jalibert au four au moulin, un messieurs qui a donné à Yann Lesgourgues.
Toi, t'as pas peur, Paul, hein.
Pardon ?
Toi, t'as pas peur de le dire.
Ah non. Fantastique joueur, Mathieu Jalibert, aussi bien à la main, aussi bien au pied. C'est véritablement le chef d'orchestre de cette équipe de l'UBB. Donc cet essai finalement inscrit bien par le remplaçant Lamotte, transformé face au poteau par Mathieu Jalibert, ce qui donne 10 points d'avance à l'UBB qui mène 32-22. Et lorsque l'on regarde le classement, dans le même temps, Pau est en train de s'imposer avec le point de bonus offensif à Agen. Si les scores en restaient là, eh bien Bayonne serait ce soir barragiste et Pau reviendrait en 12e position. Mais cela reste évidemment pour l'instant toujours très serré. 53e, Benoît ici à Jean Daugé. Donc 10 points d'avance pour l'UBB qui mène 32-22.
Et oui, le Palois Paul Lafitte qui suit avec beaucoup d'attention ce que fait la section à Agen. Pourtant, pour l'instant, 32-0 pour les Palois. Et dans l'autre match que l'on suit, Brive est mené à domicile par le Stade français 24-9. On rappelle la belle victoire du Racing contre Clermont 45-19 à 21h05, un choc entre Toulon et le Stade toulousain. Coach Courbis est donc là, Kevin Diaz également. On va débriefer ce Lyon-Lorient et la victoire lyonnaise 4-1. Coach, tu as eu la chance d'assister à ce match depuis les tribunes du Groupama Stadium. Une première mi-temps compliquée et ensuite Lyon qui a déroulé, hein, Roland.
Oui, avec quelques petits détails qui ont changé beaucoup de choses. Une première mi-temps poussive, Toko Ekambi, confirmation qu'il est nettement meilleur à gauche qu'à droite. Paqueta en première mi-temps un petit peu laborieux. Aouar, on sait très bien qu'en ce moment il essaye de rechercher sa meilleure forme, mais bon, la rentrée de Slimani en deuxième période a quand même réglé pas mal de problèmes. Ça a été un repère indispensable pour construire les attaques, et ce joueur-là associé, quand il pourra revenir le prochain match à Memphis Depay, c'est quand même un des duos extraordinaires de notre championnat.
Edouard G est là également, c'est toi qui as commenté le match. Salut Edouard.
Salut Benoît, salut Kevin.
On était un peu inquiet à Lyon, non pas par l'adversité, puisque Lorient lutte pour le maintien en Ligue 1, mais par les absents. On rappelle qu'il n'y avait ni Depay, ni Marcelo, ni Cacré. Denayer était absent lui aussi. À la mi-temps 0-0, Lyon a dû se secouer quand même pour faire une meilleure seconde période, Edouard.
Oui, mais Rudy Garcia a fait le changement qu'il fallait pour rééquilibrer tout ça et avoir un vrai point d'appui, comme l'a dit coach, avec Slimani devant. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des interrogations parce que il y avait ce faux rythme de la première mi-temps. On n'avait pas l'impression que ces joueurs voulaient aller chercher la victoire et donc la Ligue des Champions au final. Il y avait aussi ces incertitudes sur la défense centrale parce que avec tous ces absents, ça faisait quelque chose d'inédit en jeunesse et en inexpérience avec Sinali Diomandé et Mathias Deschilio. Et puis finalement, ils s'en sont bien sortis parce que au final, les Lorientais ont certes tiré 8 fois, 2 cadrés, mais c'est plutôt sur la fin de match que ces tirs ont été effectués, parce que Lyon au niveau des stats, c'est il n'y a rien à dire, hein, 25 tirs, 11 cadrés, 4 buts.
Sur la première mi-temps, je ne sais pas si c'est de le voir du haut de la tribune plutôt qu'à la télé, mais j'ai vu quand même Lorient dangereux. Bon, on n'est pas surpris compte tenu de leur duo d'attaque. Mais bon, ça s'est joué à pas grand-chose, le 0-0 à la mi-temps.
Ouais, et juste les deux images que je retiens de ce match, c'est à la mi-temps la moue grise, on va dire songeuse, très crispée de la loge, on va dire des tribunes officielles, où il y avait dans sa loge présidentielle bien évidemment Jean-Michel Aulas, mais à côté il y avait justement tous ceux qui n'étaient pas sur le terrain, Memphis Depay, Jason Denayer et Maxence Cacré notamment. Alors là c'était vraiment jour pluvieux, on va dire, au niveau de la tête. Et puis dès le troisième but, le doublé de Guimarães, là, vous imaginez, c'était plus des sourires qui étaient totalement décrispés. Donc,
oui, parce
voilà, ces deux images résument en fait les deux buts.
Trois points, on l'a d'ailleurs précisé plusieurs fois. Il y a aussi l'amélioration du goal à virage.
Et la pression qui est mise.
Plus 32 pour Monaco.
Exactement. Monaco qui sera demain à Reims, match à suivre dès 17h05 sur RMC. Kevin, on a regardé le match ensemble à la rédaction d'RMC. Pareil, on a vu une première mi-temps crispée des Lyonnais, et puis ensuite ça a déroulé avec une ouverture du score, il faut le rappeler, magnifique d'Oussem Aouar. Un enchaînement technique avec un contrôle et une frappe enroulée,
soyeux.
Sublime.
Ouais, moi je suis d'accord avec, bien sûr, avec l'analyse du coach et d'Edouard, parce que comme tu as fort justement dit, Edouard, ils s'en sortent bien. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent bien parce que oui, il y a une très très belle deuxième mi-temps, mais en première période, j'ai quand même vu un Terem Moffi et Wissa, mais poser de grosses difficultés.
Ah
s'ils
oui.
jouent mieux un ou deux contre là, où ça allait très très vite. Maintenant, pourquoi je dis qu'ils s'en sortent bien? Non pas parce qu'ils ont eu de la réussite, parce que, comme t'as dit, Edouard, c'était une équipe qui était quand même vraiment expérimentale, avec Desiglio et Diomandé dans l'axe.
Ouais, et en plus que Rudy prend le risque, avec les deux arrières centraux qui ne sont pas là, prend le risque d'enlever aussi Thiago Mendes, qui aurait pu être un protecteur devant ces deux arrières centraux d'aujourd'hui, là.
Ouais,
donc, il n'y avait même pas Thiago Mendes. Donc, j'ai dit, bon, c'est quand même un petit peu, appelons ça, imprudent.
19h08 sur RMC, les gars, on débriefe le match de Lyon, la victoire 4-1 contre Lorient, c'est l'intégral foot. Je précise qu'on va accueillir Théo et Nicolas qui nous ont appelés au 32-16, supporters lyonnais qui veulent réagir à cette victoire des Gones cet après-midi. On va juste faire un tour de nos directs, à commencer par le rugby d'ailleurs. Ça a bougé notamment entre Montpellier et La Rochelle, Julien Landry.
Avec un nouvel essai des Montpellier, signé Cobus Reinhardt, qui permet au MHR de mener 27-15, 4 essais à rien. Les Rochelais qui sont en plus en infériorité numérique avec le carton jaune reçu par Thomas Lavaux. Mais là, on est en train de voir un arbitrage vidéo pour un plaquage haut de Florian Vérague sur Pierre Aguillon. Vérague va prendre au minimum carton jaune pour ce plaquage avec la zone de la tête, et ce match va être donc totalement relancé. Il va rester 20 minutes à jouer et on va suivre évidemment la décision de monsieur Tranini. Les Rochelais, eux, sont dans les 22 mètres et vont peut-être jouer une situation pour revenir dans la partie. 27-15, Benoît, pour les Montpellierains. On est à l'heure de jeu.
Ça a bougé également entre Bayonne et l'Union Bordeaux-Bègles, Paul Lafitte.
Oui, avec un doublé pour Maxime Lam Lamotte, auteur du quatrième essai, et qui en met un cinquième après un groupé pénétrant qui franchit la ligne d'en-but. L'essai n'a pas été transformé par Mathieu Jalibert, mais le score est désormais de 37 à 22, moins 15 pour les Bayonnais qui sont en train de craquer. Et rappelons qu'avec ce cinquième essai, les joueurs de Christophe Furios glanent pour l'instant le point de bonus offensif dans la course au top 6. C'est bien un bon point de glaner, même s'il reste encore, Benoît, quasiment 20 minutes à jouer. On atteint l'heure de jeu ici à Jean Daugé. Donc 37 à 22 pour l'UBB face à l'Aviron Bayonnais.
Et il reste 20 minutes entre Agen et la section paloise. C'est Pau qui mène 37 à 0 et le Stade français mène 24 à 9. À Brive, Morgan Mori suit le match anglais, le match star entre Manchester City et Chelsea. Une victoire enverrait City vers le titre de champion d'Angleterre. Pour l'instant, c'est pas fait, Morgan. Hein
non, ce sont les 5 dernières minutes de la première période. 0-0 entre Manchester City et Chelsea. Si City l'emporte, c'est le 7e titre de son histoire, 7e championnat à mettre dans l'armoire. Une belle occasion pour les Sky Blues de Pep Guardiola. Un raid côté gauche de Raheem Sterling, un contre favorable pour passer entre deux joueurs et une frappe sur le petit côté d'Edouard Mendy qui s'étend bien et qui repousse cette balle. 0-0, 40 minutes et 30 secondes et il pleut à l'Etihad Stadium.
Et je précise qu'on suit également le match du Bayern. Le Bayern qui mène 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach, mais le Bayern qui est d'ores et déjà sacré champion d'Allemagne puisque cet après-midi Leipzig a perdu à Dortmund 3-2, 9e titre consécutif pour les Bavarois. 19h11, on est toujours avec coach Courbis, Kevin Diaz et Edouard G. On accueille Théo, supporter lyonnais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Théo.
Salut, bonjour à tous.
Merci
Salut,
d'être Théo. Là, tu nous as appelé et toi tu as vécu le match juste à côté du Groupama Stadium, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça exactement, il y a eu un rassemblement de supporters du Virage Nord. On a accueilli les joueurs d'une manière extrêmement chaleureuse à l'accueil du bus. Puis voilà, on était au bord du stade avec les radios, en écoutant RMC et en regardant le match, voilà, aux abords du stade et pour regarder ce match justement.
Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé, en tout cas, en l'écoutant à la radio? Tu as aimé, je crois, l'entrée de Slimani, c'est ça?
Exactement. La première mi-temps était un peu mitigée. On a vraiment eu chaud. Lorient s'est créé beaucoup d'occasions. Nous, on n'a pas forcément eu la justesse technique devant le but. Puis voilà, Rudy, pour le deuxième match, je tiens à le féliciter quand même pour le deuxième match. Changement tactique et vraiment payant parce que Slimani a permis justement avec son point de fixation de libérer le jeu de l'Olympique Lyonnais et donc du coup a permis à Lyon de se créer de beaucoup plus d'occasions et on l'a vu sur cette seconde mi-temps a permis d'en mettre 4.
Ouais, exactement, coach Courbis, c'est ce que tu as vu aussi depuis le stade, ce repositionnement de Slimani à la pointe de l'attaque, ça a tout changé côté lyonnais?
Ah oui, complètement, on le disait tout à l'heure, Slimani c'est un point de repère, c'est un véritable neuf. Ce que n'est pas encore Kadewere, je sais même pas si Kadewere, c'est pas plus un gars de côté que vraiment dans l'axe. Non, la rentrée de Slimani a été, je dirais, très très importante, elle a tout changé.
Ouais, je remercie Théo qui nous a appelé au 32-16. Continue d'écouter les matchs sur RMC. En plus, coach Courbis est toujours là avec nous. Il n'est pas encore appelé par les Léopards. C'est pas fait pour l'instant, Roland. Tu restes toujours avec nous. Roland, il rigole, il répond pas.
Et Benoît, oui. Ouais, juste, c'était vraiment sympa hein, toute cette ambiance parce que on vit les matchs bien évidemment à huis clos, hein, sans spectateurs. Donc c'est vraiment difficile pour les joueurs. Parfois ils nous disent, on a l'impression qu'on est dans un match amical ou de début de saison parce que il y a pas de public. Nous aussi, hein, dans notre commentaire, ça nous manque. Et puis là, on avait une petite oreille. J'enlevais juste le casque. On avait une petite oreille sur les Bad Guns parce qu'on savait qu'ils étaient juste à l'extérieur, là devant la boutique de l'OL. Et on les entendait, ça faisait déjà une espèce de petit pont entre le monde que l'on vit actuellement et puis le monde d'après que l'on veut le plus festif et le plus bruyant possible. Donc c'était assez sympa et les joueurs ont tenu, hein, c'est Rudy Garcia et tous les joueurs qui sont allés, qui sont passés par les gradins, ils sont allés sur la main courante et il y a eu une belle communion à ce moment-là entre les joueurs qui étaient en haut, qui surplombaient il devait y avoir 300-400 personnes. C'était vraiment un joli moment et on le savoure parce qu'ils sont tellement peu nombreux, c'est un grand partage, que là, on l'a savouré, même nous de loin, en suiveur et en commentateur, mettre de l'oreille.
Edouard, tu restes avec nous. Ouverture du score entre City et Chelsea, Morgan Mori.
Et peut-être le but du titre pour les hommes de Pep Guardiola, mouvement qui commence sur le côté droit avec Gabriel Jesus. La passe en retrait pour Agüero au point de pénalty. Il piétine et sans faire exprès, il donne le ballon à sa gauche à Raheem Sterling qui arrive lancé comme une fusée et qui pousse le ballon du pied gauche au fond des cages d'Edouard Mendy. 1-0 pour Manchester. Manchester City contre Chelsea à une minute de la fin de la première période.
Et bientôt 19h15 sur RMC, on va poursuivre notre débrief de ce Lyon-Lorient. On va se projeter sur la suite, la course à la Ligue des Champions. Les Lyonnais sont plus que bien placés. Puis vous entendrez Rudy Garcia après cette victoire 4-1 contre Lorient, toujours avec Edouard, donc Kevin et Coach Courbis. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
L'intégral foot jusqu'à 22h avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz, avec Edouard G. On débrief de cette victoire lyonnaise, victoire 4-1 contre Lorient. Lyon qui grimpe provisoirement sur la troisième place du podium. Et oui, les Lyonnais se sont relancés dans cette course européenne. On suivra Monaco demain à Reims, coup d'envoi du match à 17h05. Le tour de nos directs, le foot anglais, bientôt la mi-temps entre City et Chelsea. Morgan Maury.
Dans 15 secondes à peu près, Benoît, ce sera sifflé. Il y a eu une blessure pour les hommes de Thomas Tuchel, Christensen qui s'est blessé, vraisemblablement le genou gauche. On est dans le temps additionnel de la première période, ouverture du score par l'équipe de Pep Guardiola sur une reprise du gauche de Raheem Sterling. Pourquoi pas une dernière occasion avec Kun Agüero le long de la ligne de fond. Il arrive pas à reprendre le ballon, il donne à Gabriel Jesus finalement, et pénalty pour terminer cette première période. Pénalty pour Manchester City qui mène déjà 1-0 et peut-être 2-0 dans un instant.
Ouais, c'est dur effectivement pour Chelsea, Kevin.
Honnêtement, je ne peux pas dire que c'est dur parce que je ne sais pas ce qu'il adviendra de la finale de la Ligue des Champions, mais cette année, il n'y a pas photo entre les deux équipes. On a vu une équipe de Chelsea impressionnante face au Real, mais c'était le Real. Mais en championnat, Manchester City est au-dessus.
Alors en championnat, oui, mais la demi-finale de Coupe de la Ligue a été remportée par...
Tu l'as vu, la finale de la Coupe, c'est comme c'est comme la finale de ping-pong. C'est pas parce que Jérôme a gagné qu'il était bien au-dessus, comme tu l'as dit.
Alors là, c'est un peu excluant pour ceux qui nous écoutent. Tu fais référence au tournoi de l'After où t'as perdu en finale contre le producteur de l'After.
T'inquiète pas, tous les auditeurs d'RMC.
Ça, je suis pas sûr. On va faire le point sur les scores en rugby. Montpellier, La Rochelle, c'est le top 14, Julien Landry.
Et un nouvel essai pour les Montpellierains marqué à l'instant. Le cinquième de l'après-midi, 65 minutes. Et ça fait 32-15 pour les Montpellierains. 30 formations à suivre pour Lozovski, pour permettre aux Montpellierains de mener peut-être 34-15. Les Montpellierains qui pourraient faire la très grosse opération de l'après-midi avec ce point de bonus offensif, en sachant qu'ils ont encore deux matchs de retard, et contre Toulon et contre Bordeaux. C'est peut-être un pas très important vers le maintien fait par les Montpellierains ce soir.
Allez, avant d'aller à Bayonne, on va suivre ce pénalty qui va être frappé par le Kun Agüero, Morgan Maury.
Oui, 258 buts avec Manchester City, le joueur le plus grand buteur de l'histoire du club, qui veut terminer pourquoi pas avec une Ligue des Champions dans l'armoire à trophées. Il s'élance, petit ballon piqué, il a été présomptueux, Kun Agüero. Edouard Mendy n'a pas bougé et qui attrape ce ballon directement dans les mains. 1-0, on en reste là. Pénalty manqué par Kun Agüero qui serre les dents. Ouais. Il a été il a un peu sous-estimé son vis-à-vis, à mon avis, le buteur argentin. Il a tenté la panenka.
Ah, c'est le problème, 1-0 la panenka, pour Manchester City. Truc quand ça marche pas.
Et voilà. Elle est pas si mal réalisée.
Ah non, elle est bien frappée, mais comme Mendy avait tout senti, voilà.
Edouard Mendy part un peu sur la droite, il prend appui avec sa main droite et se redresse pour attraper le ballon. C'est la pause, 1-0 pour Manchester City contre Chelsea. But de Raheem Sterling.
Merci Morgan, à tout à l'heure. L'autre match de rugby que l'on suit au stade, c'est donc ce match entre Bayonne et l'UBB, Paul Lafitte.
Ouais, un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer et l'UBB mène 37-22 avec le point de bonus offensif. Les Bordeaux Béglé qui sont à 14 contre 15 Bayonnais. Carton jaune pour Alexandre Roumal à 61e pour des fautes répétées. Et là, c'est un temps fort pour les joueurs ciel et blanc qui vont peut-être aller franchir la ligne d'en but et revenir dans cette rencontre. Il faut au minimum marquer un point de bonus défensif. Mais les Bordeaux Béglé qui s'arc-boutent en défense, évidemment, ils sont paqués sur la ligne, les Bayonnais. Pour l'instant, donc, ce score, Benoît, de 37-22 plus 15, donc, pour les joueurs de Christophe Furieux. C'est peut-être laissé Bayonnais. Non, dit monsieur Ruiz, peut-être l'arbitrage vidéo. L'occasion de revenir ici à Jean Daugé dans quelques instants. Okay. Pour l'instant, 15 points d'avance pour les visiteurs.
Et 42-0 pour Pau à Agen. Et désormais 31-21 pour le Stade français à Brive. On va écouter peut-être les premiers mots de Christophe Pélissier, l'entraîneur lorienté, qui est en conférence de presse d'après-match. Je rappelle que Lorient a perdu à Lyon 4-1.
Ouais, mais bon, voilà, après, ça devient compliqué. Je pense qu'à ce moment-là, il faut plus mettre de gardien, hein, parce que ça sert plus à rien. Ils peuvent plus rien faire. À un moment donné, lui, il a le droit d'arrêter sa course, le gardien a le droit de rien faire. Donc, c'est comme ça, mais on est habitué.
Voilà, Christophe Pélissier qui revient sur ce pénalty de Guimaraes, qui a été frappé, arrêté par Paul Nardi, mais comme Paul Nardi n'a pas conservé les deux pieds sur la ligne, une règle qui plaît beaucoup à Kevin et à coach, il a été retiré.
Franchement, VAR mis à part, c'est une des pires règles qui a jamais été inventée, celle-là. Il y a déjà un désavantage énorme sur un point gardien, sur un pénalty, alors que l'arbitre fasse attention à l'œil nu, que le mec soit pas 2 mètres devant la ligne. Mais là, encore une fois, elle est vraie, aller regarder avec la vidéo qui est pas le talon qui est ridicule.
suis d'accord avec toi. 19h20.
Vu la course en plus d'élan ridicule de Guimaraes.
Qu'il a fait la deuxième fois aussi. Ouais. Voilà, c'était terrible. Edouard G a dû apprécier, mais nous, ça ne nous a pas plu, en tout cas. Edouard toujours là, Roland aussi, et Nicolas, supporter lyonnais, qui nous appelle au 32-16. Salut Nicolas.
Bonsoir.
Bon. Salut Nicolas.
Nicolas, première période poussive, mais une belle seconde période qui vous laisse toujours dans la course à la Ligue des Champions.
Bah, au-delà du match où, comme vous l'avez tous dit, il faut remercier Slimani qui a vraiment tout changé. Moi, je vois déjà la saison prochaine et peu importe qu'on soit troisième ou quatrième, j'espère troisième, mais la mécanique sera la même. Il y a vraiment des questions à se poser sur le fait que Lyon est toujours une équipe qui aime bien les fins de saison et qui aime bien compenser leurs carences d'une saison globale sur la fin. Ça fait des années qu'ils font un bon grand chelem sur la fin en gagnant les 5, voire des fois les 10 derniers matchs d'affilée pour justement atteindre leurs objectifs au dernier moment. Et cette année, on a eu la chance de jouer qu'un match par semaine, donc c'était une saison test pour voir si il fallait se cacher derrière l'excuse du physique et de la répétition des matchs suite aux différentes compétitions depuis des années. Et cette fois-ci, non. Et on était champion d'automne. Il faut quand même se rappeler qu'on est champion d'automne. Parce que je pense que dans les têtes, les joueurs étaient revanchards par rapport à la fin de saison dernière qu'ils n'ont pas pu jouer. Et comme ils étaient presque pas attendus et presque mis de côté quelque part, ils ont joué léger, libéré. Et honnêtement, on a survolé les pelouses pendant 2-3 mois. Et puis quand t'as la trêve et que t'es champion d'automne, tu te poses des questions sur qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça. Et quand tu te poses des questions, bah, ça devient de moins en moins naturel et de moins en moins spontané de reproduire ça. Mmh. Et depuis janvier, j'étais là quand on était sur cette émission avec Roland, je crois qu'il était là, et on disait que Lyon, dans les 2-3 premiers matchs de la deuxième partie de saison, commençait à faiblir au niveau de l'intensité, au niveau du jeu. Et cette descente, elle n'a pas arrêté de s'arrêter pendant des semaines et des semaines, et on ne changeait rien. On ne changeait rien dans les compositions de départ. Et puis, au bout d'un moment, on a commencé à changer de système grâce à Slimani, et ça allait mieux. Donc moi, ce que je voudrais, l'année prochaine, quand on va changer l'entraîneur, parce qu'on va changer l'entraîneur, c'est d'avoir un entraîneur qui déjà n'accepte pas qu'on se fasse remonter quand on gagne 2-0 et qu'on perd 3-2, qui n'accepte plus ça, parce que ça fait des années que je ne vois pas de rébellion par rapport à ça. Et puis un entraîneur qui changera plutôt de stratégie à mener, parce qu'il le fait très bien maintenant, hein, Garcia, mais je pense un peu tard, parce que ça fait pendant 2 mois, on aurait dû changer quelque chose, et on l'a changé très très tard, seulement quand on était encore une fois dos au mur. Ouais. Et ça m'énerve que Lyon ne joue bien que quand ils sont dos au mur et qui n'ont plus de filet de sécurité. Donc j'aimerais qu'on arrête ça, qu'on joue plus confortable, parce qu'on avait les cartes en main cette année pour vraiment jouer le titre. Et je pense qu'ils ont eu peur de gagner et de jouer ce titre et qu'ils ont trop réfléchi sur comment le gagner alors qu'ils ne se sont pas posé de questions pour arriver là où ils étaient au début. Et quand tu te poses des questions dans le foot, bah ça, c'est beaucoup plus compliqué.
Nicolas, merci de nous avoir appelé au 32-16 et je vais faire réagir Edouard G qui suit Lyon depuis de nombreuses années. C'est quoi le secret effectivement de ces sprints finaux à Lyon? C'est vrai que la saison a manqué de régularité. Lyon avait très bien démarré avant de s'écrouler début janvier. Et puis là, on retrouve une équipe lyonnaise qui est conquérante et qui engage ce sprint final en enchaînant les victoires. Quoi. Il y a un vrai savoir-faire lyonnais de ce côté-là. C'est assez bizarre.
Oui, alors cette année, c'est quand même un petit peu moins vrai parce que à la limite, je mettrais, moi, s'il y a eu un vrai sprint gagnant, les matchs de face à Paris et face à Ligne gagnant dans cette série, même si ça fait énormément de matchs. Le problème, c'est que je crois que ce groupe, et ça fait un petit moment en discutant un petit peu avec les uns les autres, je crois que ce groupe à des joueurs pour gagner des matchs, mais pas forcément pour gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut être régulier tout au long de l'année. Et on a des leaders à l'image d'un Memphis Depay, qui est un leader de stats, on va dire. Certes, 19 buts, certes, 10 ou 12, je sais plus, j'ai plus mes notes sous les yeux. Passe décisive, c'est énorme hein, ce qu'il fait en termes de stats. Mais moi, j'ai pas vu, par exemple, sur les dernières images, parce que les images sont très très parlantes et il faut suivre quand on le peut. Je le fais forcément pour mon boulot. Les insights, comme on dit, faits par les médias du club, notamment par Seb Romani, qui est excellent là-dedans. Et on voit des images parce qu'il laisse traîner sa caméra. Et qu'est-ce qu'on voit sur le but de Ryan Cherki la semaine dernière? Eh bien, une petite moue de Memphis Depay. Pourquoi? Parce qu'on sent que c'est pas lui qui a marqué le but de la délivrance. Donc une petite jalousie. Et ça, je sais que dans le groupe, c'est d'un petit peu.
Il y a pas que ça comme problème. Quand
non,
même,
non, mais c'est ce genre de leader qui vous permettent à la. On en a parlé par rapport au match de Lille, Fonte, Benjamin André, etc. C'est ce genre de leader là qu'il n'y a pas dans le
Memphis,
groupe pour être régulier tout au long de l'année, qu'en fait.
Memphis, il a toujours eu cette personnalité, même quand il était était au PSV Eindhoven, qui était son club formateur, même quand il était au Sparta Rotterdam, qui était son premier club formateur. Maintenant, moi, on m'a aussi dit que dans le groupe lyonnais, il y a pas mal de problèmes de personnalité, de comportement, et ça dure depuis le début de la saison, et c'est pas que Metfis le problème, il y a aussi des jeunes joueurs, des moins jeunes, des joueurs formés, donc je veux dire, c'est un problème qui est plus global au niveau de l'état d'esprit
justement,
ou de leader.
Posons la question au coach, c'est un problème de joueurs ou d'entraîneurs, ça, effectivement, les trous d'air dans une saison qui peuvent arriver et qui peuvent coûter des points cruciaux dans la course au titre ou à la Ligue des Champions.
Ça peut être les deux, ça peut être ni l'un ni l'autre, ça peut être aussi des blessures de joueurs importants, et ça peut être aussi une mauvaise analyse parfois d'une formule qui marche bien. Je te donne un exemple. Quand Rudy trouve comme formule le 4-3-3, et ce 4-3-3 avec Paqueta d'un côté, Aouar de l'autre, et Guimarães ou Thiago Mendes dans l'axe, et que les trois attaquants sont un faux neuf avec Memphis Depay, Toko Ekambi à droite et Kadewere, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc c'est une formule qui peut marcher, mais on est dans une époque aujourd'hui, je dis pas qu'il y a des enquêtes 24 heures sur 24, mais entre les stats, les observations, tous les appareils pour arriver à voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se passe pas. Donc cette formule, elle va être tout de suite remarquée. Et quand je dis qu'on se trompe des fois de cette formule, elle marche pour moi pour pas mal de choses. Mais si on me demande le numéro 1 du pourquoi ça marche, c'est l'association sur un terrain de football d'Aouar et de Paqueta. Ce qui fait, si tu veux, dans les sorties de balles et la construction du début des actions. Et quand on a Aouar qui se blesse et qu'on pense, alors qu'il a d'autres qualités, le remplacer en gardant cette formule et le remplacer par le jeune milieu
Cacré,
ben on se trompe.
Oui, mais on
se trompe complètement.
Ça dépend quand même, coach, quel Oussem Aouar. Est-ce que c'est le Oussem Aouar de la deuxième mi-temps, ou est-ce que c'est le Oussem Aouar des trois derniers mois?
Mais d'accord, mais si tu n'as pas Oussem Aouar, il va falloir que tu trouves une autre formule, et l'autre formule, c'est pas de le remplacer par Kakere, qui est totalement différent. L'autre formule, c'est avec Slimani et de faire de Memphis Depay un 9,5 qui compensera l'absence d'Aouar. Et tu vas pas me dire que quand tu as l'effectif de Lyon, ton meilleur duo d'attaquants dans l'axe, c'est pas Slimani et Memphis Depay. Autre chose aussi, quand tu es Lyon, il faut quand même réaliser qu'il n'y a peut-être pas des phénomènes à tous les postes, que peut-être les latéraux, et c'est pas le seul club, sont allés peut-être pas les meilleurs du monde, mais quand tu as 5 milieux, Guimarães, Thiago Mendes, Cacré, Paqueta et Aouar, mais quels sont dans notre championnat les effectifs avec 5 milieux supérieurs à cela?
Plus Ryan Cherki qui...
Lui, je le mets dans la catégorie des milieux offensifs. À la limite, au tableau, il serait en train de remplacer Depay quand Depay sort. Mais le numéro 9, Slimani, tu vas me trouver dans cet effectif un autre numéro 9 meilleur que Slimani. Eh bien, Toko Ekambi, avec ses qualités, ses défauts, eh bien, il rentre en cours de match. Et aujourd'hui, on est dans une époque qu'il faut bien qu'on se mette dans la tête. Tous les entraîneurs, M. Longoria, français ou étrangers, c'est que nous sommes dans une époque où il y a 5 changements. Et ces 5 changements, c'est 50% des joueurs de champ. Donc ça, c'est une époque où tu peux changer poste pour poste, pour disons, aller se faire partager le boulot, ou tu peux changer aussi des joueurs et l'organisation, à condition que tu aies préparé tes joueurs, ce qui me paraît être indispensable, mais est une évidence, deux organisations. Une organisation à trois arrières centraux, une organisation à deux arrières centraux, et après, à 30 minutes de la fin, et non pas à 3 minutes de la fin, tu changes 3-4 joueurs, tu changes une organisation, et tu essayes de surprendre l'adversaire. Donc, je sais pas, moi, ce qui se serait passé, mais en tout cas, j'aurais aimé être dans cette époque-là.
Projetons-nous sur l'avenir en un mot, messieurs, Kevin, Edouard et Roland. Je vous donne juste le calendrier de Lyon. Déplacement à Nîmes dimanche prochain, ensuite réception de Nice. Je vous donne celui de l'AS Monaco qui jouera demain à Reims, qui aura ensuite ce match de Coupe de France à disputer contre Rumilly et qui recevra Rennes et qui ira à Lens. Lyon a un vrai coup à jouer pour la troisième place.
Ah ben oui, complètement.
Voilà. Clairement, ils ont beaucoup à jouer, comme tu as dit, parce que pas forcément par rapport à leur propre calendrier, mais par rapport à celui de Monaco, qui a encore la Coupe de France à jouer, qui doit encore jouer contre Rennes. On va voir ce que font les Rennais contre le Paris Saint-Germain demain, mais en effet, les Lyonnais, en tout cas, il faut qu'ils fassent le plein de points pour ne pas avoir de regrets.
Exactement. Juste le symbole du jour, peut-être, après son premier but en Ligue 1 la semaine dernière, Ryan Cherki, ses premiers 90 minutes, son premier match complet en Ligue 1, c'est à noter, parce que là, je pense qu'il se passe quelque chose au niveau de Ryan Cherki. Entre ses buts de la Coupe de France, son premier but, vainqueur la semaine dernière.
Mais il est encore jeune.
Mais il est encore jeune, mais voilà, dans son acclimatation du très haut niveau.
Il est moins adolescent qu'il y a quelques mois.
Exactement.
Et voilà, il grandit. C'est ça, coach Courbis.
Voilà.
Il devient mature.
Vous rigolez, mais il grandit sûrement encore.
Bah, évidemment, il est encore en pleine croissance.
Oh là, puis avec la marge de progression qu'il a, il est à 20% de ce qu'il va faire.
Le problème, Roland, le problème, c'est que tu ne pourras pas le prendre en sélection nationale du Congo, a priori. Donc, il faudra t'en passer, Ryan Cherki.
Merde, j'y avais pas pensé.
Bon, tu trouveras d'autres joueurs, hein, c'est pas très grave.
Non, je vais me débrouiller.
Évidemment, dès que l'info tombe, dès que tu as quelque chose à nous annoncer, Roland, tu n'hésites pas. Roland Pressenti, donc, pour prendre la tête de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Merci, coach Courbis.
Salut.
Edouard G.
Salut,
nous, on va continuer, évidemment, notre intégral foot avec Denis Sapien dans quelques instants, notre infiltré nantais après la victoire nantaise, on vous le rappelle, cet après-midi contre Bordeaux. 3-0. Dans un instant, on fera également sur le point sur nos directs, à commencer par le rugby et également les matchs européens. Je vous précise juste que Manchester City mène à la mi-temps contre Chelsea 1-0. Pour l'instant, City est sacré champion d'Angleterre. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Avec Kevin Diaz jusqu'à 22h sur RMC. Dans 15 minutes, même dans 12 minutes, on va lancer la grande soirée de Ligue 2. Tous les matchs de la 37e journée à suivre dès 20h. On vous présentera tous les enjeux de la soirée avec nos différents correspondants. Mais il y a d'autres directs, à commencer par le rugby, les fins de match de top 14 avec cette 23e journée et Montpellier-La Rochelle, Julien Landry.
Oui, c'est fini à l'instant, Benoît. Victoire Montpellier-Rennes, 32-22. 5 essais pour les Montpellierens, un seul essai pour les Rochelais qui avaient fait beaucoup tourner après leur victoire en demi-finale de Coupe d'Europe. Belle opération des Montpellierens qui prennent 5 points ce soir au classement et qui se donnent un peu d'air. Alors pas forcément un peu d'air au classement, mais voilà, qui réimplique Brive dans la lutte pour le maintien.
Merci Julien, bonne soirée à toi. Ça joue toujours entre l'UBB et l'Aviron Bayonnais, Paul Lafitte.
Oui Benoît, un petit peu moins de 2 minutes à jouer et l'UBB se dirige vers une victoire bonifiée, une dernière pénale touche trouvée par les joueurs de Christophe Furios et les avants qui vont peut-être encore une fois faire la différence. Ils auront marqué 5 essais ce soir, les Bordelot-Béglés, pour un seul essai côté Bayonnais. Et l'information de cette soirée, c'est qu'au classement, grâce à ce succès, eh bien l'UBB va revenir dans le top 5 et un dernier essai, Benoît, à l'instant, quasiment au buzzer, à moins de 50 secondes de la fin de cette partie, le 6e essai Bordelot-Béglés pour un score désormais de 45-22. Les Bayonnais auront tenu une mi-temps. Ils n'étaient menés que de 6 points, 25-19. Mais le rouleau compresseur, eh bien, Bordelot-Béglés aura fait la différence en deuxième période. Les Bordelot-Béglés, je le disais, qui reviennent donc dans le top 5 du classement avec 2 matchs en retard à jouer. Ce sera face à Agen le 21 mai et face à Montpellier le 25 mai. Et dans le même temps, Agen a perdu face à la section qui s'est imposée avec le bonus. Ce qui veut dire que Bayonne est ce soir de nouveau en position de barragiste et les joueurs de la section paloise, 12e de ce classement général. La fin et le score final, Benoît, dans quelques petites secondes.
Ouais, je vous précise que le Stade français mène toujours, mais de justesse, hein, 31-28 contre Brive. Les Brivistes reviennent dans la partie et pour l'instant, la section paloise mène contre Agen 47-7. C'est reparti. Le foot anglais de la première ligue entre City et Chelsea, Morgan Maury.
Manchester City à moins de 45 minutes d'un 7e titre de son histoire. Les hommes de Pep Guardiola mènent 1-0 à un but de Raheem Sterling à la 44e minute de la première période. Si le score en reste là, ils soulèveront un nouveau trophée de champion d'Angleterre. À coup sûr, 47 minutes et 20 secondes. 1-0 pour Manchester City face à Chelsea. Entrée en jeu de Kurt Zouma qui a remplacé Christensen, sorti sur blessure, vraisemblablement un genou du côté de Chelsea.
19h36 sur RMC, la parole est aux infiltrés.
Les infiltrés d'RMC.
C'est votre rendez-vous tous les samedis soirs. RMC vous permet de partager le quotidien d'un joueur de Ligue 1. On va retrouver notre Nantais Denis Sapierre dans un instant. Auparavant, c'est terminé à Bayonne. Paul Lafitte, victoire.
On va terminer avec, je te coupe la chic,
de Bordeaux,
la victoire de l'UBB qui s'impose au final 47 à 22 avec 6 essais marqués. L'UBB dans le top 5 et Bayonne désormais barragiste de ce championnat de France.
Merci Paul, bonne soirée à toi. Le point complet sur les résultats de top 14 dans un instant. Mais on va accueillir Kevin, un homme heureux, un infiltré heureux. C'est Denis Sapia, le Nantais. Salut Denis.
Salut.
Merci salut d'être Denis. Avec nous. C'est l'effet Appia à Nantes depuis que Denis est titulaire latéral gauche. C'est 3 victoires consécutives. La troisième cet après-midi, victoire contre Bordeaux, 3-0. Je précise que Nantes est toujours 18e, mais avec 5 points d'avance désormais sur Nîmes qui est 19e et seulement 1 point de retard sur Strasbourg et sur Lorient qui sont respectivement 16e et 17e. Denis, explique-nous ce qui se passe en ce moment à Nantes. C'est la plus belle série du club depuis septembre-octobre 2019. Tout roule pour l'instant. Hein.
Il nous fallait cette série, ça faisait un moment qu'on ne gagnait pas au moins 2 matchs de suite. Et puis tout le monde avait fait une série devant nous, et il ne manquait plus que nous. Donc je disais aux gars qu'on était un peu dans la mouise en janvier-février, qu'on allait faire une série. Alors je ne savais pas quand, mais on est en train de la faire là, 3 victoires de suite, ça fait forcément du bien. Et puis ça prouve qu'on est toujours vivant.
Un autre élément important, la victoire de cet après-midi, c'est la première à la Beaujoire depuis le 18 octobre 2020. Ça aussi, c'est un soulagement, Denis ?
Oui, forcément. On avait vu les chiffres, ça faisait longtemps qu'on ne gagnait pas chez nous, alors que sur la saison dernière, on était très très performants à domicile. Donc voilà, c'était important pour eux de gagner enfin chez nous. Et puis il y a aussi le clean sheet, où ça faisait un moment aussi qu'on n'avait plus encaisser de but. Donc c'est aussi très important et on est content d'avoir fait tout ça en même temps face à Bordeaux.
Pour en revenir au match de cet après-midi, c'était une sorte de duel contre un concurrent direct. Hein. Certains pensaient que Bordeaux était déjà sauvé, alors que c'est pas vraiment le cas. Mathématiquement, c'est pas fait pour les Girondins. Vous l'avez abordé comment ? Comme une finale, un match à ne surtout pas perdre, Denis ?
Comme depuis le match de Strasbourg, où on sait que pour rester en vie et pour accrocher les autres, il faut gagner nos matchs. Donc à chaque fois, on pense au match de la semaine. Qu'on avait fait contre Strasbourg, contre Brest. Et donc là, pareil, on savait qu'on tombait sur une équipe qui était malade comme nous, hein, qui était à peu près dans la même situation, même si j'avais gagné contre Rennes, où c'était très compliqué, et qu'il fallait commencer le match assez fort sur de nos forces, et vite les faire douter plutôt que de leur donner confiance et être en difficulté.
Mmh. Kevin.
Mais écoute, déjà félicitations hein, Denis, parce que c'est vraiment très bien ce que vous faites là depuis.
Denis, c'est Roberto Carlos.
Ouais, vous avez montré forcément du caractère pour revenir dans ce championnat, comme t'as dit, pour faire enfin cette série. Maintenant, moi je regarde le calendrier là depuis 2 minutes et alors je veux pas vous donner de faux espoirs, mais franchement vous avez de bonnes chances de vous sauver, hein, d'éviter les barrages, parce que si je reviens demain, on a une équipe de Strasbourg qui reçoit Montpellier, c'est pas facile. Ensuite, vous,
sans manquer. Il y a Nîmes qui va à Metz, en plus. Le 19e est vraiment voilà, en galère.
Hein. Oui, bon, le 19e, ça va être compliqué de toute façon pour qu'ils reviennent maintenant. Mais ensuite, je regarde, bon, vous, sans manquer de respect à Dijon, mais vous allez à Dijon. Donc, il va falloir prendre les 3 points.
Il est déjà relégué en Ligue 2.
Voilà, il va falloir prendre les 3 points. Sachant que derrière, sur la dernière journée, il y a un certain Lorient, enfin Strasbourg-Lorient. Donc, franchement, ça va pas être ça. Bordeaux aussi qui joue contre Lens la semaine prochaine. Si vous faites 2 fois, même si vous prenez 4 points, vous pouvez rien qu'avec 4 points, vous pouvez être quasiment sûr de même pas jouer les barrages. Donc bon, 6 points, ce serait l'idéal forcément.
On s'est donné les chances d'arriver jusque là. Maintenant, on essaie de pas trop faire de calculs parce que il peut se passer encore beaucoup de choses. On a la chance d'être revenu, enfin en tout cas de mettre la pression sur les gens qui sont devant nous. D'aussi, entre guillemets, enfin on espère, en attendant les matchs de demain, essayer de pratiquement assurer déjà cette 18e place. C'est déjà important déjà pour commencer. On verra ce que fera Nîmes. Et puis, nous, il faut qu'on
se concentre. Vous en parlez du calendrier ou pas ? Du calendrier des
autres ? Oui, forcément, on en parle. On en parle et on regarde, forcément. On est obligé de regarder les autres. Mais on se dit surtout que si nous, on ne fait pas les choses, ça va regarder les autres.
Oui, c'est vrai.
Ouais, parce que sinon, on ne prend pas nos points, comme on faisait. En fait, depuis janvier, on regarde toujours le calendrier des autres. Ah oui, mais ils vont perdre des points là, etc. Mais non, on n'avançait pas, on ne gagnait pas. Et eux gagnaient. Donc, on s'est d'abord reconcentré sur nous, d'abord reconcentré sur gagner des points, pour ensuite pouvoir, après nos matchs, commencer à regarder ce que font les autres. Parce que c'est bien beau de dire que c'est difficile pour les autres. Mais si nous, on ne gagne pas nos matchs, ben c'est sûr qu'on ne les rattrapera pas.
On parlait de Nîmes. Je précise que Nîmes recevra Lyon à la 37e journée et ira à Rennes à la 38e. Donc, la fin de saison nîmoise est forcément très, très compliquée. Donc, la 19e place, a priori, c'est bien parti pour le FC Nantes. Qu'est-ce qui a changé, Denis ? Explique-nous tout de même ce qui a changé dans votre quotidien. Est-ce que quelque chose s'est passé pour enchaîner quand même ces trois succès ? Celle à Strasbourg, la victoire a été difficile à aller chercher. Vous avez gagné en seconde période surtout. À Brest, c'était beaucoup mieux dès le début de match avec cette victoire 4-1, 3-0 cet après-midi. Il s'est passé quelque chose au FC Nantes, Denis ?
Alors, je ne pense pas que ça soit dans le travail, où on a toujours assez bien travaillé, ou dans la semaine, ça se passait plutôt bien, les joueurs étaient en confiance. Je pense que c'est... bizarrement, je pense qu'en tout cas pour moi, c'est le match de Lyon. Où le match de Lyon, ok, on le perd. On parlait de 2-0 à la mi-temps, on aurait pu prendre une gifle. Et finalement, on gagne, entre guillemets, cette deuxième mi-temps, où on marque un but, et on les pousse dans les retranchements, on essaie de revenir. Et je pense que de voir qu'on était capable de ne pas prendre une gifle contre un gros du championnat, ça nous a remis confiance. Et puis après, comme je disais, il nous fallait une victoire. Ça faisait un moment qu'on ne gagnait plus. Et puis les victoires amènent les victoires. D'aller à Strasbourg, départ d'un 0 à la mi-temps, de se dire que c'est compliqué finalement de renverser ce match. Parce qu'à 1-0 à la mi-temps, si on nous dit prend un point, on prend un point. Finalement, on arrive à renverser ce match. Ben, ça nous a donné confiance. Et puis après, on fait un super match contre Brest. Donc en fait, les victoires, ça amène forcément de la confiance. Je pense qu'on est une équipe où on n'est pas forcément mauvais, même si c'est compliqué cette saison. On a des qualités, mais avec la confiance, on n'arrivait pas justement à montrer nos qualités. Et dès que la confiance revient tout petit peu, et avec les efforts qu'on refait, etc., ben, forcément, nos qualités ressortent. Et puis on arrive à être décisif au bon moment.
Quand je vous dis que c'est l'effet Appia, Denis, il est rentré contre Lyon, latéral gauche, il n'est plus sorti de l'équipe, il y a eu 3 victoires. Et voilà. T'as même touché la barre cet après-midi. T'aurais pu marquer quand même, Denis. Ça aurait été sympa.
Ouais, j'ai touché la barre. Ben, ça se rapproche.
On n'a pas eu un but d'infiltré qui vient cette saison. Il n'y a pas un infiltré qui a marqué, les gars, quand même. Je ne demande pas à Gauthier Larsonneur de garder un but, mais au moins les autres. Bon, merci Denis d'avoir été avec nous. C'est très sympa. Je te souhaite une bonne soirée.
Salut Denis.
Et je te dis à bientôt. Hein, tu passeras encore une fois dans les infiltrés. Prochain match pour vous, dimanche de la semaine prochaine à Dijon. Merci Denis Appia. 19h43 sur RMC. À bientôt Denis. Et dans un instant, on lance notre grande soirée de Ligue 2. On sera sur 5 stades. Tous les matchs de la 37e journée à suivre avec beaucoup d'enjeux au niveau de la montée, au niveau du top 5 et au niveau du maintien. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot Ligue 2.
Benoît Boutron.
Kevin Zas jusqu'à 22h sur RMC. C'est parti pour la grande soirée de Ligue 2. Tous les matchs de la 37e journée à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h. On va se régaler. Avant justement de commencer notre tour des stades, un petit tour en Angleterre pour vous donner le temps et le score entre City et Chelsea. Morgan Maury.
57e minute à l'Etihad Stadium sous la pluie. Match pour le titre en Première Ligue pour que Manchester City soit titré champion d'Angleterre. 1-0 pour les hommes de Pep Guardiola face à Chelsea. Réalisation de Raheem Sterling à la 44e minute.
Merci Morgan. Et puis comme promis, je vous donne les résultats finaux des matchs de top 14. La victoire de Montpellier contre La Rochelle 32-22. La victoire du Stade français à Brive 31-28. Victoire de Bordeaux-Bègles à Bayonne 47-22. Victoire de la section paloise à Agen 47-7. Un peu plus tôt, le Racing avait battu Clermont 45-19. À 21h05, le choc entre Toulon et le Stade toulousain à suivre sur RMC. Mais commençons notre tour des stades de Ligue 2. Direction le Stade de l'Aube. 3, leader du championnat, n'a besoin que d'un point ce soir contre Dunkerque pour valider sa montée en Ligue 1. Une victoire permettrait même à l'Estac d'être sacré champion de Ligue 2. Salut Arnaud Valadon.
Salut Benoît, salut Kevin, salut à tous.
Et un bel accueil des joueurs troyens par les supporters. On a vu ça un peu partout, on a vu ça avec Clermont, on en parlera dans un instant, mais les troyens, les supporters troyens ont fait le job également.
Ouais, à 18h30, ils étaient entre 200 et 300 avec les maillots, parfois des maillots vintage d'il y a 20 ans, des tambours, des drapeaux, quelques pétards également pour accueillir le bus de l'Estac. Un accueil qui a fait chaud au cœur, c'est ce qu'a déclaré d'ailleurs au diffuseur Laurent Batless avant le match, parce qu'effectivement on sent aussi une ferveur. Alors il y a ce qui est mis en place dans le stade avec ses portraits, comme on voit aussi dans d'autres stades de Ligue 1. Au lieu d'avoir des sièges vides, on a les portraits de spectateurs. Il y en a près de 5000 qui sont disséminés dans le stade. Mais oui, il y a cette ferveur, on sent que c'est vraiment un grand soir pour le département de l'Aube et les Stac. Vous êtes la fierté du peuple troyen, c'est une banderole qu'on peut lire. Une saison dominée, un trophée à soulever. Voilà également une autre banderole dans le stade. Mais oui, on sent que c'est un grand soir, un soir de montée, peut-être un soir de titre. Tu l'as rappelé, Benoît, les différents scénarios. S'il y a au moins un point, une victoire ou un nul contre Dunkerque, les Stac sera en Ligue 1. Ouais. Même en cas de défaite, ça faudra regarder Clermont ou Toulouse. Et
Sidesta qui est championne en cas de victoire tout court aussi. Donc ça, c'est un paramètre évidemment à prendre en compte, mais on sent effectivement une effervescence. Il manque juste du public dans ce stade de l'Aube de plus de 20 000 places.
Et on aura le temps de détailler les compos dans un instant. Mais direction Gabriel Montpied, Clermont deuxième du classement, n'est qu'à deux matchs d'une montée inédite en Ligue 1. Clermont qui reçoit Sochaux. Salut Damien Tardieu.
Salut tout le monde, salut l'équipe.
Ah, il est tendu le Damien là, il est croix jusqu'au bout là.
Oh non, moi je suis serein, tout va bien. Il fait beau en Auvergne, les volcans sont magnifiques, c'est parfait.
T'as pas pris ta couverture?
Non, la couverture est rangée, j'espère ne plus avoir à la sortir. On l'a sortie suffisamment souvent cet hiver quand même.
Damien, précision d'importance, Clermont pourrait même monter dès ce soir. Hein.
Exactement, en cas de victoire face à Sochaux ici et en cas de faux pas de Toulouse. Alors, si Toulouse perd, ce sera mathématique. Clermont aura 7 points d'avance et Toulouse n'aura plus que 6 points à prendre. Si Toulouse fait match nul et que Clermont gagne, ça fera 6 points et les Auvergnats ont une différence de but largement supérieure à celle de Toulouse. Donc, ils auront 95%, 98%, on va dire, de chances de monter. Ici aussi, il y a eu l'accueil des supporters. Et pour le foot à Clermont, je peux vous dire que j'en ai fait des matchs au Montpied. Et j'ai jamais vu ça. C'était plusieurs centaines de spectateurs, plus de 500, certainement chaud bouillant, véritablement, qui ont tapé sur le bus clermontois à son arrivée. Et ça a dû surprendre les joueurs, hein, quand même, parce que.
Ça les a réveillés.
Ouais, ça les a peut-être réveillés, parce que, il faut le dire, ici, c'est une ville de rugby. Clermont, on a eu des 40 000 spectateurs, place de Jaude, pour venir accueillir le bouclier de Brennus il y a quelques années avec l'ASM. Mais c'est vrai que le foot est un petit peu confidentiel, on va le dire. Et là, depuis une semaine, depuis deux semaines, à Clermont, il y a un vrai engouement. Alors, à voir comment les joueurs vont vivre avec ça. Ouais, c'est pas l'Olympique de Marseille non plus, mais quand même, ça change. Évidemment, ce club assez tranquille, familial, qui se retrouve en haut de l'affiche et qui est peut-être à 90 minutes ou à 180, effectivement, d'une montée historique. Je vois à ma droite, là, les supporters qui ont mis une banderole. Écrivez l'histoire, c'est exactement ça. Ouais, le club du Clermont Foot, il n'a que 30 ans, finalement. Évidemment, une accession en Ligue 1, ce serait une grande première.
Merci Damien, les détails des compos dans un instant évidemment sur RMC. Puis le troisième club qui va tenter d'accéder directement à l'élite, c'est Toulouse. Victoire impérative pour le TFC face à une équipe de Caen qui lutte pour ne pas descendre. Et là, on a sorti le grand jeu. On a envoyé Jeannot Rességuier au stadium, chez lui dans son fief. Salut Jeannot.
Bonsoir à tous, bonsoir Benoît, salut Kevin.
Jeannot, bah oui, va être le chat noir quand même pour le TFC.
Écoute, il y a très longtemps que je ne suis pas venu. La dernière fois que je suis venu, c'était contre Monaco et contre Paris. Deux victoires enchaînées. À l'époque, c'était un certain Dupraz qui était le coach. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi. Ils savent ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire déjà gagner impérativement face au Stade Malherbe de Caen, qui, comme tu l'as dit aujourd'hui, pour l'instant est barragiste et joue sa survie, d'attendre le match en retard contre Pau au milieu de semaine et puis la dernière journée pour entretenir l'espoir, pourquoi pas, d'une montée directe. Sinon, ça passera par les barrages, et ça, ils en sont conscients, pour en avoir discuté avec Olivier Jaubert, le directeur général, ou encore avec Damien Comolli, le président, très très tendu, aperçu tout à l'heure avant le match. Ils sont conscients que de toute façon la Covid est venue au mauvais moment, que ça a été compliqué à gérer et que la meilleure attaque de Ligue 2 a connu quelques déboires, et notamment à l'extérieur, en prenant des buts parfois stupides. Mais voilà, le match en retard du côté du Havre, ils l'ont gagné 1-0. Ils ont tremblé durant tout le match, deux poteaux, une transversale, et peut-être que c'est un signe. En tout cas, ce soir, c'est encore face à des Normands qu'il va falloir confirmer et entretenir l'espoir, pourquoi pas, d'une montée directe.
Ouais, Jeannot, on détaillera les compos dans un instant. On parlera également de l'hommage à venir pour Christophe.
Oui. Oui, on est obligé d'en parler, parce qu'on est entre émotion et concentration. Évidemment. Il y a eu un bel accueil de la part des supporters avec une banderole à la mémoire de Christophe Revault tout à l'heure sur l'île du Ramier, où ils ont accompagné le bus du Toulouse Football Club avec les fumigènes. Il y a un magnifique tifo, mais il y aura un bel hommage rendu dans quelques minutes à Christophe Revault décédé, qui nous a quitté si rapidement, et avec ses anciens partenaires de l'époque des Pitchouns, William Prunier avec Stéphane Lièvre et Anto Bancarel. Ils seront là présents pour déposer une gerbe à sa mémoire dans le but face à la tribune.
On arrive pour en reparler. On va terminer notre tour des stades, la lutte pour le top 5. Désormais, on a parlé d'accession directe, il y a également les accessions via les barrages et cette confrontation directe à la Baie des Champs ce soir entre la JOCR 6e et Grenoble 4e. Salut Lucien Denis.
Salut Benoît, bienvenue à la Baie des Champs. Quelle soirée se prépare ici en Bourgogne, parce qu'effectivement, il y a bien longtemps qu'on n'avait pas eu ce frisson des grands rendez-vous, parce que c'est un grand rendez-vous. L'équipe de la JOCR a une possibilité ce soir, un coup de victoire. espoir de doubler tout simplement les Grenoblois. Et avec ce déplacement du Paris FC à Ajaccio, eh bien, elle pourrait tout simplement se retrouver troisième avant d'aller à Sochaux. C'est-à-dire qu'après cette saison quelque peu chaotique avec des résultats qui ont été un petit peu surprenants, notamment cette défaite à Pau, eh bien, on peut espérer encore du côté de la Baie des Champs voir cette équipe jouer les playoffs et pourquoi pas retrouver son lustre d'antan. Il y a bien longtemps, il y a bien trop longtemps, Benoît, qu'on est en Ligue 2 ici à la Géocère et on n'a qu'une envie, c'est de remonter. Yes, il reste du chemin à parcourir puisqu'il y aura encore quelques matchs à disputer avant de pouvoir rêver, mais quand même cette soirée face à Grenoble, et bien tout simplement, Benoît, la victoire elle est impérative.
Et ça va être passionnant à suivre le détail des compos dans un instant. Autre équipe qui lutte pour le top 5, c'est le PFC 5e qui doit profiter justement de ce duel entre Auxerrois et Grenoblois pour conforter sa place dans le top 5. Le Paris FC en déplacement en Corse à François Coty pour défier l'AC Ajaccio. Salut Jean-Philippe Scapula.
Bonsoir, salut et bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Oui, ici, pas de frissons, une ambiance estivale. Ouais. On est quasiment en vacances. Bienvenue dans le plus beau pays du monde, il faut le dire, il faut l'avouer. Pour ce match où l'enjeu ne concerne véritablement qu'une équipe, vous l'avez dit, Benoît, c'est le Paris FC de René Girard, bien sûr, le Paris FC qui, en cas de victoire, fera une bonne opération, quoi qu'il arrive, du côté d'Auxerre au Grenoble, parce que soit il validera définitivement sa place en play-off en cas de contre-performance d'Auxerre, soit il prendra la quatrième place avant de recevoir Chambly pour sa dernière journée. Donc un énorme coup à jouer pour le Paris FC. Pour cela, il va falloir battre une équipe ajaxienne, certes un petit peu en vacances, en claquette, tu le disais, mais malgré tout qui assure rester mobilisé, hein. Ils veulent absolument rentrer dans cette première partie de tableau. Ils veulent jouer les arbitres ce soir. Et en parlant d'arbitres, c'est Gaël Angoula, une très bonne connaissance des Ajacciens, qui sera l'homme en noir ce soir. Voilà, non, mais vraiment, l'enjeu pour le PFC, on sent déjà un air de vacances ici à François Coty.
Exactement. Les autres affiches et les autres enjeux de la soirée avec Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous. Avec 5 autres rencontres et des matchs importants dans la lutte pour le maintien, à commencer par Chambly-Pau, les Camblisiens qui peuvent tout chambouler ce soir et notamment mettre Caen sous pression d'une relégation directe en récupérant sa place de barragiste. Les Palois doivent s'imposer pour se donner un peu d'air. Le match sans enjeu, c'est Guingamp qui reçoit Châteauroux, déjà relégué. Rodez, de son côté, accueille Nancy. Un succès et les Ruthénois composteront leur ticket pour la prochaine saison de Ligue 2 au stade de la Licorne. Amiens reçoit Niort. Vu que Dunkerque se déplace chez le leader, les Chamois peuvent réaliser la belle opération de la soirée, surtout que leur adversaire Amiens n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison. Et puis le dernier match de la soirée au stade du Hainaut entre Valenciennes et Le Havre. Comme Pau, le Hack doit l'emporter pour prendre encore plus ses distances sur la zone de relégation. Et puis Jadot le disait, entre émotion et concentration aussi du côté du Havre, évidemment, un hommage sera rendu à Christophe Revault, décédé avant-hier à l'âge de 49.
Ouais, légende du club Christophe Revault, on va y revenir avec Jadot auparavant. Un petit tour en Angleterre, puisqu'il y a eu des buts entre City et Chelsea. Il y a eu un but important, Morgan Moura.
Oui, Chelsea, empêcheur de tourner en rond, empêcheur de titre pour Manchester City. But pour les hommes de Thomas Tuchel, réalisation d'Hakim Ziyech. Beau mouvement collectif des Blues qui est parti côté droit. Le ballon qui est revenu au niveau de l'arc de cercle de la surface de réparation. La frappe de Ziyech. Le ballon qui lèche le poteau et qui rentre au fond des filets. Un partout entre Manchester City et Chelsea. C'est la 67e minute. Conséquence, Manchester City n'est pas virtuellement champion d'Angleterre. Il faut absolument l'emporter face aux Blues, encore 24 minutes dans cette partie.
Et on va suivre cette fin de match avec toi, Morgan. 19h55, effectivement, les hommages qui déferlent sur les réseaux depuis l'annonce du décès tragique de Christophe Revault, ce gardien de but retrouvé mort à son domicile à 49 ans, légende du Havre, légende de Toulouse, Jeannot Rességuier, vibrant hommage qui attend évidemment les supporters toulousains, qui a été préparé par les supporters toulousains et par le président Damien Comolli pour récompenser ou pour honorer plutôt ce gardien légendaire du TFC, celui qui avait aidé le club à passer du National à la Ligue 1 il y a quelques années.
Hein. Oui, qui avait accepté de tomber en National 1 avec William Prunier, il est là, avec Stéphane Lièvre, il est là également, Anthony Bancarel, ses partenaires de l'époque des Pitchouns qui sont là présents avec la minute de silence dans quelques instants ici au stadium. La gerbe va être déposée le temps du protocole là devant le terrain, devant la pelouse, alors que dans quelques instants cette minute va être respectée. Ils se sont échauffés avec Totoff, avec Revault, le numéro 1, dans le dos pour les joueurs de champ et pour les gardiens de but. Il a marqué l'histoire de ce club, il a marqué l'histoire du HAC bien évidemment, du Paris Saint-Germain, du Stade Rennais, mais il a participé surtout à la belle remontée, aux remontées successives du Toulouse Football Club de National en Ligue 2, en Ligue 1. Il nous a quitté trop rapidement jeudi dernier. Christophe Revault est honoré ici sur la pelouse du stadium avec notamment 7 minutes de silence dans quelques instants.
Merci Jeannot, on va te laisser profiter de 7 minutes de silence et la respecter surtout. Un mot sur ce qui se passe au Havre, l'autre club de cœur de Christophe Revault, Arthur Perrault.
Ouais, avec aussi au stade du Hainaut à l'instant une minute de silence qui va être observée. À noter la belle image, c'est Jérémy Jeannot qui est membre du staff de Valenciennes, entraîneur des gardiens, qui lui aussi a porté un maillot floqué Revault pendant l'échauffement de son équipe. Et puis un peu plus tôt cet après-midi au Havre, 200 supporters qui se sont réunis avec une banderole. Le joueur était grand, l'homme restera immense. Un texte écrit par la famille a été lu aussi aux supporters aussi. Il y avait beaucoup d'émotions au Havre, donc un peu plus tôt dans la journée, pour rendre hommage déjà à Christophe Revault.
Et évidemment, RMC apporte ses condoléances à la famille de Christophe Revault et notamment à son épouse et ses deux enfants. 19h57 sur RMC, la dernière pause, moins de 2 minutes, et ensuite on se retrouve pour le coup d'envoi des 10 matchs de la 37e journée de Ligue 2. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.